Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Hello, bienvenue sur le podcast Intention. Je suis Isadora et moi Marisa, nous sommes jumelles et entrepreneurs dans le domaine de l'alimentation saine depuis 2015. Sur nos différentes plateformes, que ce soit Instagram, YouTube ou ici en podcast, on partage nos recettes, nos conseils et nos astuces santé et bien-être. Alors vous l'aurez compris, ici on parlera évidemment d'alimentation et de rééquilibrage alimentaire. Mais comme l'assiette ne fait pas tout et que pour nous, une vie saine, c'est avant tout une vie épanouie, on parlera beaucoup d'hygiène de vie et d'épanouissement personnel. À travers différentes discussions sans filtre, en solo, en duo ou en compagnie d'invités passionnés et surtout très passionnants. En fait, notre intention est toute simple finalement. Vous aider à vivre la vie que vous méritez. Bonne écoute! Et bienvenue dans un nouvel épisode.
Bonjour Isadora, coucou Valérie.
Salut les filles.
Alors on est trop contents de t'avoir et en plus, eh ben, tu n'es pas en visio. Ça c'est rare. Tu es face à nous dans ma salle à manger. Donc là c'est Isadora qui parle. Nous avons l'honneur de recevoir Valérie Zanon, l'autrice de Vilain Levain. Déjà j'adore ce nom, mais vraiment j'adore ce nom, Vilain Levain. Un livre que, c'est vous d'ailleurs qui vous nous avez mis en relation finalement, ce sont nos abonnés qui nous ont mis toutes les deux en relation, puisque je parlais de Levain, on m'a dit « va voir Vilain Levain », du coup j'ai acheté ton livre, je l'ai dit sur YouTube, et des gens sont allés te dire sur Instagram « oui, elle a parlé de toi », et du coup on s'est parlé, et maintenant tu es chez moi.
Tout à fait normal.
Oui, c'est la vie des réseaux sociaux, mais c'est chouette de casser le réseau social justement et que tu sois là.
Te rencontrer en vrai.
Ouais, c'est trop cool. Donc toi, en plus, tu n'es pas du tout d'ici.
Pas du tout.
Ouais, t'es de Paris et donc t'as pris ta petite voiture pour venir jusqu'à nous.
J'ai fait.
Ta petite voiture.
Ma petite.
Elle ne paraît pas petite cette voiture quand elle est arrivée. On s'est dit, ah quand même, ça c'est une grosse voiture.
Encore un truc de youtubeuse où on se minimise.
Oui,
petit. Tout est petit avec les youtubeurs. Donc oui, toi tu viens de Paris et t'es venue ce matin, tu es venue pour nous voir aussi, mais t'as aussi été regarder un petit peu ce que font les artisans d'autres régions, donc t'es allée ce matin faire un petit tour.
En fait, je me suis prévue 2-3 jours là sur votre région pour profiter déjà d'un petit moment pour moi, me faire un petit mini road trip. Un mini road trip, enfin quelque chose que je prévoyais pour moi. C'est fou comme on minimise le temps, d'ailleurs dans les termes, le temps qu'on s'accorde à soi. Jusque dans les termes, en fait, finalement. Je voulais faire un petit bout de chemin comme ça, sans mes enfants. Prendre un petit peu de large, sans aller forcément très loin. Et l'idée de venir vous rencontrer m'a tout de suite plu. Et je me suis dit, je vais en profiter, je vais organiser mon petit séjour autour de cette rencontre avec Isadora et Marisa. Et je vais en profiter aussi pour voir un petit peu ce qui se passe aux alentours, voir s'il y a des bonnes boulangeries, des boulangers à rencontrer, des artisans, des gens qui travaillent la terre. Et j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un ce matin qui m'a été recommandé par Anthony Ménard, un de mes amis. Et qui s'appelle Franck Perrault et qui est pas loin de chez vous, vraiment, qui est pas loin de chez vous. Et lui, c'est un paysan boulanger. Donc paysan boulanger, ça veut dire qu'il s'occupe de toute sa filière. Il n'est pas juste boulanger, il s'occupe également de ses semences. Donc en fait, c'est lui qui sélectionne ses semences, qui les plante, qui les fait pousser, qui les récolte, avec tout ce que ça entraîne comme pénibilité, comme fonction. Et après, il s'occupe de récolter, de mettre ça en meunerie, parce qu'il a sa meunerie dans son petit labo. Donc, il extrait la farine à partir de ses semences, et après, il en fait du pain.
Quel boulot, il est tout seul ?
Il n'est pas tout seul, il a une petite équipe avec lui, ouais, de quelques personnes, mais il fournit un travail colossal.
Et là, tu nous en parles avec grande passion, mais comment t'es tombée dans cette passion du levain ? Aujourd'hui, est-ce que c'est ton métier d'être autrice ou tu parles de levain ? Comment on est tombée dedans ?
Alors déjà, pour répondre à ta question, non, ce n'est pas mon métier, même si j'aimerais déployer un peu cette idée-là, mm-hmm, et la concrétiser, parce que c'est vraiment quelque chose qui m'anime. Et je pense que maintenant, à notre époque, c'est important de faire un travail qui anime au quotidien, qui est lié à nos passions. Et clairement, l'univers du levain, du pain au levain, de la panification, de la boulangerie, tout ça m'intéresse énormément. J'ai pas envie de devenir boulangère, ça c'est clair que non, c'est pas quelque chose qui me... C'est pas une suite logique pour moi, c'est-à-dire souvent on a ce raccourci de se dire que voilà, quelqu'un qui commence à faire le pain chez lui, forcément ça va générer une envie de passer un CAP, d'ouvrir un micro-fournier, une boulangerie, bref.
Mais tu sais, nous on a la même chose, hein, parce que ouais, nous on parle d'alimentation saine, le raccourci qu'on fait c'est vous devriez être diététicienne ou naturopathe,
ouais,
c'est
ouais,
pareil,
ouais,
alors que ouais, c'est comme toi pour être boulanger. Moi, ça ne m'animera pas d'être diététicienne.
Non, c'est pas les mêmes. Je pense qu'on n'aborde plus les choses après de la même façon. Mmh. Et c'est pas forcément. Je pense qu'il n'est pas forcément nécessaire de passer sur une professionnalisation quand on aime faire quelque chose. Ça contredit peut-être que ce que je viens de dire juste avant. Mais en fait, je sais pas trop comment rebondir là-dessus. C'est-à-dire que.
T'aimerais en faire ton métier, oui, sans être boulangère.
Voilà, c'est ça. Je pense qu'il y a plein d'autres choses. Je pense qu'il y a plein d'autres choses à déployer autour de ce thème-là, sans passer forcément par la case boulanger.
Moi, je suis d'accord. Ouais, moi, je trouve en plus Internet permet ça depuis maintenant plusieurs années. Mais c'est comme nous. Moi, personnellement, j'adore parler d'alimentation saine. Je me vois pas du tout reprendre des études pour être diététicienne. Je me vois pas du tout avoir un patient en face à face toute la journée pour évangéliser, enfin aider la personne à rééquilibrer son alimentation. Et je trouve qu'aujourd'hui, on peut se permettre d'inventer nos propres métiers, parce que nous, c'est ce qu'on a fait, on a inventé nos propres métiers, et voir ce que ça va donner. Mais c'est le truc de vouloir avoir un métier qui est, tu sais, dans la liste bien définie de tu es quoi ? Ta maman, elle fait quoi dans la vie ? Elle est comptable. Ta maman, elle fait quoi dans la vie ? Elle est boulangère. Mais le truc de ta maman, elle fait quoi dans la vie ? Elle crée du contenu sur les réseaux sociaux où elle parle, toi, de pain, moi, d'alimentation saine, c'est chelou. Mais en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est de pouvoir créer son propre métier, même si tu n'es pas boulangère. Mmh. Tu peux créer plein de métiers avec du pain.
Tout à fait.
Énormément.
Et en plus, tu ne t'enfermes pas dans une limite. C'est-à-dire que quand tu crées du contenu, ce qui est notre cas à toutes les trois, finalement, on a un champ des possibles qui est quand même extrêmement large, voire infini. Et justement, je pense que c'est un peu ce qui nous anime aussi, l'aspect créatif et qui n'est pas routinier dans le contenu. Mmh. C'est-à-dire que la forme peut prendre une forme de... Enfin, la forme peut être routinière dans le fait qu'on poste des choses régulièrement, qu'on a un planning, etc. Mais finalement, le contenu peut être il évolue, en fait. Il évolue avec nous, avec nos vies, avec nos visions qui changent aussi en fonction des rencontres, en fonction du quotidien. Et je pense que ça me limiterait trop de me retrouver dans un rôle trop défini comme celui de boulanger, sans aspect négatif du tout, mais le fait d'être enfermé en fait dans un corps de métier ne me correspond pas. Donc finalement, je me dis que je peux déployer en fait d'autres moyens multiples pour faire parler cette passion-là, mais sans me poser de limites en fait.
Parce que pour nous, pour ce genre de personnes multipotentielles, sky is the limit.
Voilà. Only the sky.
Non, mais c'est vrai. C'est que nous, on n'a pas envie d'être enfermés parce que dans un métier qu'on a choisi, qu'on a décidé de développer, tu peux créer plusieurs projets à l'intérieur qui sont reliés au premier projet, mais qui ne te... Parce qu'on sait très bien, si demain, moi, quand j'étais fonctionnaire, par exemple, si j'avais envie de mener un nouveau projet, oh là là, la longueur administrative, fallait d'abord que je demande à X personnes à chaque fois la validation, alors que nous, on fait ce qu'on veut, en fait. Tu peux faire absolument ce que tu veux. Que ce soit du e-commerce, que ce soit de la formation, que ce soit de la création de contenu, des collaborations. Il y a énormément de possibilités.
Mais vraiment, moi, je suis très intriguée, Valérie. J'ai besoin de savoir comment, en 2023, on tombe dans le levain. Alors, je me doute bien que ce n'est pas en 2023 que tu es tombée dans le levain. Mais le levain, quoi. C'est vraiment quelque chose qui est complètement qui a été oublié pendant, pendant des années.
C'est obsolète, c'est désuet.
C'est désuet. D'ailleurs, tu disais quoi, à dépoussiérer, limite. Ben, je veux dire, même nos grands-mères n'utilisaient pas de levain. C'est un truc qui est terminé depuis, depuis la levure boulangère. Donc, comment on se dit, comment on comprend, comment on crée, et on se dit, je vais déjà en créer pour moi avant même que ce soit un emploi. Parce qu'avant même que ce soit ton travail, tu le faisais pour toi-même. Comment t'en es arrivé là ?
Tu l'as dit, c'est-à-dire que le point de départ, il est personnel. Donc, c'est une démarche qui est personnelle, une découverte qui est forcément personnelle aussi. Elle s'est faite par étapes. Clairement, je ne me suis pas mise du jour au lendemain à faire du levain. Ça a été un processus qui a démarré, je pense... Alors, j'ai du mal à détecter le point de départ à chaque fois qu'on me pose cette question-là. En fait, je donne un point de départ et après... La prochaine fois qu'on me pose la question, j'ai encore un autre point de départ. En fait, je retrouve à chaque fois des points de départ différents dans ma vie quand j'y réfléchis, en fait. Et je me dis, bon, déjà, il y a l'amour du pain, du bon pain, ça, c'est clair. Il y a eu des soucis de santé, digestifs, clairement. Il y a eu la volonté du fait maison. Enfin, la volonté de faire maison qui s'est beaucoup développée quand j'étais en Égypte pendant mes 2 années. Ça a été un moment où il a été nécessaire pour moi de refaire des choses que je connaissais, des choses qu'on avait l'habitude d'avoir au quotidien, du pain à la française, des choses à la française, des gâteaux à la française, des choses comme ça qu'on ne trouvait pas sur l'endroit et qui nous manquaient. Enfin, ça peut être risible, mais non, ça manque vraiment quand on est à l'étranger. Je pense que tous les expats vont être d'accord avec moi. On a envie, à un moment donné, de retrouver des goûts de chez nous, en fait. C'est des besoins. Donc, j'ai, sous la contrainte, entre guillemets, mais c'était plutôt après devenu un plaisir, de refaire chez moi des spécialités françaises, dont le pain. Alors, j'ai commencé très simplement avec de la levure, levure boulangère. C'était ce qui était le plus communément utilisé. Et puis, à l'époque, je parle de 2008-2007, le levain, on en entendait absolument pas parler, surtout pas en Égypte. Et après, quand je suis rentrée en France, cette envie de faire maison s'est reconduite, ça s'est poursuivi en France, parce que j'ai trouvé une satisfaction, j'ai trouvé je trouvais de la reconnaissance, oui. Ouais, des bienfaits personnels, de la reconnaissance, de l'estime de moi, des choses, me prouver que j'étais capable de faire, en fait, de reproduire des choses. Ça, c'est hyper, des choses toutes simples, mais c'est hyper gratifiant de se dire, ouais, on arrive à faire une pâte comme, un gâteau comme on a vu chez le boulanger ou pas. C'est hyper gratifiant d'en nourrir mes enfants aussi. Ça a été super. Je pense que ça me fait remuer des choses. Très profond, en fait, très nourricier, très comme ça, qui sont très profonds et qui sont hyper valorisants et rassurants aussi, de dire qu'on est capable.
C'est drôle que tu dises ça parce que c'est un épisode de podcast qu'on avait eu envie de faire il y a longtemps, qui était genre, je sais pas, cuisiner maison, en gros, si bien fait, sous-côté du cuisiner maison, et on voulait parler justement de l'estime de soi. De quelque chose dont on parle peu, parce qu'on va parler du fait maison, le côté, vous savez ce que vous mettez dans votre assiette, dans votre corps, etc. Mais on parle très peu du fait maison dans le côté reconnaissance personnelle, estime de soi, valorisation. Et c'est hyper important, c'est intéressant que tu en parles.
Valorisation, là. Et clairement, je sais qu'en Égypte, ça a même été pas une bouée de sauvetage, parce que le terme est trop fort, mais ça a été un point de repère. Un point de repère. Dans un environnement qui n'était pas le nôtre à la base, et sécurisant, un point de repère et un point de sécurité aussi à ce niveau-là.
Donc le fait maison pour le bien-être mental, sous-côté aussi, on n'y pense pas, mais
ouais.
Intéressant.
Ouais. Bon, après, chacun le fait à son niveau, avec ses possibilités de planning, de temps et puis d'envie aussi, il faut avoir envie de le faire. Mais voilà, donc ça s'est poursuivi quand on est rentré. Quand on est rentré en France. Et par contre, là, je commençais vraiment à avoir des petits soucis intestinaux que j'ai détectés et que j'ai détecté après dans la signification. Et il y avait un souci au niveau digestibilité, prendre conscience de son microbiote. C'était en 2009 et... microbiote, ce terme-là était complètement étranger et puis on n'en entendait jamais parler. Et il y a un bouquin qui est sorti qui s'appelle, je ne sais pas si vous connaissez les filles, Le charme discret de l'intestin.
Oui, bien sûr.
Vous connaissez
ça ? Évidemment, oui.
Ouais. Moi, ce bouquin-là, et j'en parle à chaque fois, c'est un bouquin qui m'a complètement ouvert les yeux sur tout un tas de choses que j'ignorais.
Moi, j'ai rien compris. Moi, j'ai trouvé qu'il était dur à lire.
C'est vrai ?
Moi,
je l'ai trouvé plutôt agréable, en fait, parce qu'elle avait justement une ligne édito qui était plutôt rigolote.
C'est pour ça que je l'ai acheté, tout le monde a dit ça.
Ouais.
Et moi, je me suis dit, mais c'est archi compliqué. Moi, j'ai trouvé ça.
Il y a des termes scientifiques, il y a quand même pas mal de termes scientifiques, et c'est vrai qu'elle a. Bon, la fille, elle est. La fille, elle est scientifique à la base.
Oui.
Donc en fait, elle a fait un travail de vulgarisation, mais il reste quand même des termes que tu peux pas remplacer. Et, voilà, des noms de bactéries, des trucs comme ça. Mais moi, par contre, j'ai trop kiffé.
Peut-être pas le même.
J'ai trop aimé.
Niveau intellectuel.
En tout cas, ça m'a donné des clés et ça m'a permis de comprendre un peu des choses qui se passaient dans mon ventre, quoi. Et j'ai mis en application certains de ces conseils, notamment tout ce qui est probiotique, prébiotique, qu'on trouve dans l'alimentation. Mais déjà, rien que le fait de comprendre ce que c'était et à quoi ça servait, ça a été un vrai changement dans ma vie. Et de fil en aiguille, je me suis intéressée à la fermentation, donc la lactofermentation, le fait de faire fermenter ses légumes, ce qui n'est pas nouveau, hein, la choucroute... Il y a des tas de choses en fait qu'on connaît, les cornichons, la choucroute, et il y a des tas de choses en fait qu'on consomme au quotidien, mais on n'avait pas encore mis un mot là-dessus en fait. Et le fait de comprendre en fait comment ça fonctionne et qu'est-ce que ça peut t'apporter, moi ça a été un life changer, clairement. Ça a été au quotidien, en tout cas, je l'ai senti. Et donc, pour terminer sur ta question, Isadora.
On a tout notre temps, tu sais,
De fil en aiguille, donc ça a commencé avec la lacto au niveau des légumes et des fruits aussi. Et après, ça a évolué sur le pain. Le pain que j'avais gardé comme préparation régulière chez moi. Donc, je me suis intéressée au levain. Je me suis dit, comment en fait adapter ce pain-là là, qui continue à me faire un petit peu mal au ventre? Comment l'adapter? Et paf, ça y est, le mot magique était arrivé et j'ai commencé à m'intéresser à ça. Attends, le vin, mais qu'est-ce que c'est? Mais attends, c'est quoi? C'est un microbiote dans un petit truc, dans une petite pâte à modeler, là? C'est quoi ce... c'est quoi ce bidule? Et en fait, de fil en aiguille, j'étais tellement... je me suis découvert déjà alors que je détestais ça à l'école, tout ce qui est biologie et trucs comme ça, chimie, biologie, je détestais ces matières-là à l'école. Mais je me suis découvert un intérêt pas possible pour ça, au travers en fait de tout cet infiniment petit en fait. Je me suis découvert une passion vraiment pour ça. Donc tout ce qui est bactéries, levures, champignons, microbiote, prébiotique, machin, enfin tous ces mots qui étaient un petit peu barbares au départ. J'ai voulu creuser de plus en plus en fait, et je me suis rendu compte en fait que le levain c'est un truc fantastique en fait, c'est un truc incroyable qui a été mis de côté par l'être humain pour des questions pratiques, pour des questions économiques, etc. Mais en fait qu'il y a toute sa place maintenant à revenir et qu'il y a tout son intérêt en fait à revenir dans nos alimentations primaires en fait. Donc tous nos aliments de base, pain, tout ce qui est fait à base de blé, de choses comme ça. Pour ceux qui ont des problèmes et des soucis comme moi j'ai pu avoir, moi ça a réglé beaucoup de problèmes.
Donc c'est Marisa qui devrait faire du levain toutes les semaines plutôt que moi, hein, parce que moi j'ai pas de problème digestif.
Oui, moi j'ai un petit intestin fragile et c'est vrai que... Alors, le levain, moi j'avoue j'adhère. J'adore en manger.
Le pain au levain, t'adhères et t'adores.
Moi j'adore le levain, le pain au levain, ça c'est sûr. C'est juste que le pain au levain, ça prend du temps. Toi t'es mère de 3 enfants.
Ouais, 3 ados.
À quelle heure, à quel moment de ta vie, lactofermentation, ça prend du temps aussi. C'est vrai que les gens qui font du fait maison ou qui ne font pas de fait maison nous disent déjà, nous, pourtant, on fait des recettes vraiment extrêmement simples et hyper rapides. On nous dit déjà, j'ai pas le temps, moi. Comment, toi, t'as intégré ces savoir-faire anciens dans ton quotidien de femme moderne? C'est pas facile.
Alors, c'est vrai que... La notion de temps, elle est là, elle est réelle. C'est une donnée et un fait réel pour tout ce qui est fait maison, surtout en fermentation. C'est en général, c'est des temps de préparation et de recettes qui sont incompressibles. Ça veut dire qu'on ne peut pas chercher en fait, à les rendre plus courts. C'est quelque chose de... Non, il faut accepter ça, en fait. Le fait qu'une préparation pour faire un pain, ça va prendre tel nombre d'heures. maintenant, qu'est-ce que je fais, moi, dans mes choix, dans mon choix du quotidien, qu'est-ce que je préfère ? Est-ce que je préfère gagner du temps et me faire un pain rapide ou alors l'acheter, je ne sais pas, moi, au supermarché ou chez un boulanger, ce que je fais encore régulièrement, hein, attention, hein. Voilà. Ou est-ce que je veux prendre ce temps-là aussi pour moi, pour me dire, je vais profiter de ce temps où je fais mon pain, pour développer en fait d'autres trucs au travers de cette activité-là, et pas uniquement un but qui va être le pain cuit et qui va être mangé, mais non, comment je vais profiter en fait de ce process-là qui est un point de départ. Comment je vais observer ce qui se passe, qu'est-ce que je vais tirer en fait de cette transformation qui se fait au fil des heures, qu'est-ce que ça m'apporte aussi. En fait, pour moi, faire du pain, c'est plus que faire du pain.
J'espère bien, parce que sinon, tu n'aurais pas fait deux bouquins, tu n'aurais pas fait un compte Instagram. J'espère bien que c'est pas juste faire du pain.
Et puis surtout que tu commences ton pain genre à 10h, tu l'as fini le lendemain à 10h,
ouais.
Pour limite 24h. Alors, je n'ai pas 24h dans la main, dans la pâte, mais quand même, j'espère bien qu'on en tire, moi aussi, je suis d'accord avec toi, autre chose que juste bouffer du pain. Parce qu'à ce stade-là, je préfère la boulangerie que le faire.
On est d'accord. Et c'est ça qui est bien. Alors, je tiens à préciser que je travaille. Je ne suis pas H24 chez moi. J'ai une activité prenante professionnelle qui est assez prenante, qui est diverse et variée, mais qui est prenante.
Plus trois enfants.
Je casse le mythe. Je ne suis pas à la maison H24 à ne faire que du pain tous les jours. Non, c'est pas ma vie. Maintenant, comment est-ce que j'intègre justement cette volonté de fait maison dans mon planning et dans mon emploi du temps ? Alors, le fait maison avec la fermentation prend du temps, mais on ne reste pas devant. C'est-à-dire que à partir du moment où tu lances ta pâte à pain, tu ne vas pas rester pendant 4 heures devant à la regarder se transformer.
Ouf, tu peux, rassure déjà.
Tu peux.
En même temps, ça peut être un moment méditatif hyper...
Pourquoi pas, une méditation en pleine conscience, tu regardes faire monter ton levain. Pourquoi pas. Il y a peut-être une nouvelle tendance. Je peux te trouver une autre branche à ton travail. On peut faire des retraites de méditation levain. À 800 balles.
1500
balles les deux jours.
Oui, regardez la pâte levée.
Voilà.
Vous comprendrez plein de trucs dans votre vie.
Bien sûr. Why not?
Grand moment de méditation.
Sky is the limit. Hein.
Ou timelapse, mais à l'inverse. Tu sais.
Ouais, c'est ça.
En fait, chacun fait comme il veut. Hein. S'il veut rester avec une petite messagesse devant la pâte, tu vois ou non ce qui se passe. Mais non, le but, c'est pas de rester coincé ou de devenir esclave et de se retransformer en esclave de cuisine. C'est pas ça. C'est juste de conduire une préparation. En fait, quand il y a une fermentation, il y a vie. Ça veut dire qu'on agit, en fait, on met en place un processus qui est vivant. Donc, quand tu lances ta pâte, tu la lances. Tu mélanges, tu mets ton levain, ta farine, ton eau, hop, un petit peu de sel et tout ça. Tu mélanges tout ça et tu laisses la nature faire. Donc, et elle le fait très bien. Donc, en fait, ceux qui vont travailler pour toi, c'est comme si tu avais une petite équipe, une petite équipe avec toi de petits salariés qui va faire le petit boulot, qui va couper les chaînes d'amidon, de gluten, etc. Dégrader les sucres, etc. Des petites enzymes, des petits trucs, nanana. Et moins, j'ai envie de te dire, moins tu vas en faire et mieux ce sera. Pour le pain ou le vin. Moi, je m'organise mes petites routines en fonction du temps que je prévois sur la journée. Si je sais que je vais avoir une journée où je vais être toute la journée dehors, clairement, des fois, je me dis, je ne fais pas de pain. et j'ai le droit. J'ai le droit de ne pas faire de pain et tout va bien. En général, je fais plutôt une fois dans la semaine. Donc, je le fais plutôt le week-end. Mais voilà, je lance ma pâte le matin. En fait, je rafraîchis mon levain. Une fois qu'il est prêt, je lance ma pâte le matin. Et je peux prévoir qu'en fin d'après-midi, je fais ma cuisson. Et puis ça y est, c'est bon, on a du pain pour la semaine. Donc en fait, je me dis que c'est peut-être pas plus long qu'une autre activité qu'on ferait, je ne sais pas moi. On en parlait tout à l'heure, hein, du tricot... ou une sortie, shopping, ou un truc comme ça. Finalement, à partir du fait où les étapes clés demandent que tu sois là, mais les étapes entre les deux, ce n'est pas nécessaire que tu sois là, la vie continue. Donc en fait, c'est long et en même temps, ce n'est pas long. C'est-à-dire que le temps d'action sur 8 heures,
oui,
c'est une demi-heure. C'est une demi-heure, en fait, regroupée. Donc voilà. C'est vrai que dans l'imaginaire, on s'imagine, enfin, Dans l'idée, on s'imagine voilà, que ça va être, qu'il faut être à 100% à la maison, dans la cuisine, qu'il ne faut pas bouger du truc, tout ça. Non, c'est très différent dans la pratique.
Et c'est vrai que ça paraît difficile aussi de faire du levain. Tu vois, moi, je fais mon pain maison, mais avec de la farine, enfin de la levure boulangère, pardon. Ça me paraît très facile. D'ailleurs, au début, j'ai toujours pensé que le pain était compliqué à faire, avant même de faire du levain. Enfin, c'est même pas du levain. Quand une amie à nous nous avait partagé sa recette de pain à la maison, je disais, mais tu fais ton pain toi-même, mais jamais de la. Enfin, c'est juste incroyable de faire du pain soi-même. Moi, c'est un truc d'artisan boulanger, quoi. C'est clairement pas un truc pour moi. Et c'est vrai que quand on avait fait sa recette, et aujourd'hui, sa recette, elle est sur notre blog depuis des années maintenant. Et c'est vrai que c'est un pain que je fais régulièrement, surtout en automne-hiver où je vais en faire toutes les semaines j'ai du pain à la maison. On se rend compte à quel point c'est facile, et beaucoup de nos abonnés ont dit mais grâce à votre recette je fais du pain moi-même et je trouve que c'est facile. Est-ce que le levain, tu peux dire que c'est quand même facile finalement? Est-ce que c'est pas tant compliqué qu'on s'imagine? Moi j'imagine quand je vois Isadora faire, franchement je me dis hashtag flemme, pas envie.
Pour,
pas
par rapport au réfléchi, aux petites routines,
ça paraît scientifique, ça paraît une maîtrise qui n'est pas juste je verse mon paquet de levure boulangère dans de l'eau tiède.
Ouais, parce que là, t'as le facteur, levant qui vient s'ajouter. C'est-à-dire que dans ta tête, tu te dis, bon, il va y avoir une étape supplémentaire à gérer, qui n'est pas juste, effectivement, mettre un petit sachet de levure dans ta pâte et qui va gonfler en 2 heures. Oui, après, j'ai envie de te dire, oui, c'est une petite étape supplémentaire. Petite, non, je vais pas mentir. C'est un apprentissage, c'est quelque chose à comprendre. Le levain, c'est quelque chose à comprendre. C'est pas.
Pourquoi toi, tu dirais à quelqu'un. Enfin, pas pourquoi. Une personne ne connaît pas le levain. Comment tu la convaincrais de dire le levain, c'est bien pour toi, en dehors d'aller chez le boulanger? Parce que moi, clairement, je vais très souvent chez mon boulanger aujourd'hui. Ouais. On a la chance, nous, d'avoir un endroit où le levain est assez accessible. Mais pourquoi je devrais le faire moi-même? Si tu devais me convaincre de faire du pain au levain moi-même, ce serait pour quelle raison? Qu'est-ce que j'en tirerais comme bénéfice, comme bienfait, comme...
Alors, il y a une petite phrase que j'aime bien.
J'adore les petites phrases, moi.
Ne cherche pas à convaincre, mais cherche plutôt à faire réfléchir. Mm-hmm. Voilà. Donc, plutôt que de chercher à convaincre quelqu'un qui n'est peut-être pas prêt ou qui a sa vision, ou etc., c'est peut-être donner à réfléchir dans le sens qu'est-ce qu'on veut pour nous? Qu'est-ce qu'on veut pour nous sur le moyen terme, sur le court terme, sur le moyen terme et sur le long terme? Je ne prendrai pas en fait la responsabilité de convaincre quelqu'un, parce que je ne connais pas sa vie. Je ne connais pas sa vie, je ne connais pas ses goûts, je ne connais pas ce qui se passe dans son corps, ses attentes, etc. Maintenant, ce que je sais, c'est que le pain au levain, moi, je ne retournerai plus en arrière. Ce que je sais aussi, c'est que plein de personnes autour de moi me disent la même chose. Et qu'en fait, il y a comme un phénomène en fait, qui se passe autour de ça. C'est-à-dire qu'une fois qu'on rentre en fait, dans cet apprentissage-là et qu'on a compris, on ne peut plus s'en passer. Moi, c'est le retour que j'en ai majoritairement. Pourquoi ? Parce que bah, déjà, à un niveau gustatif, on retrouve en fait, des goûts de pain qu'on avait avant. Ou alors qu'on n'a jamais connu et qu'on découvre. Enfin, on passe dans une autre dimension en fait, gustative qui nous plaît complètement. Donc, il y a un point de vue gustatif, un point de vue... Ça se passe par l'odeur, par la texture, par tout un tas de trucs. Le pain au levain, ça dégage une odeur particulière, ça dégage un goût particulier, une croûte qui est présente, qui apporte de la mâche. En fait, le résultat, on est sur un autre produit. On arrive sur une autre dimension du pain, en fait. Et ça, c'est une expérience, dans le sens où, déjà, je me suis dit, c'est moi qui ai fait ça. C'est un truc de ouf. C'est moi qui ai réussi à faire ça, là. Donc déjà, il y a cette dimension, cette expérience, en fait, qui peut être négative, hein, parce qu'on n'arrive peut-être pas forcément toujours du premier coup à faire son pain. Et d'ailleurs, moi, j'en ai raté beaucoup.
Moi aussi. Hein.
J'en ai raté beaucoup avant de faire quelque chose qui me satisfasse. Mais c'est de l'expérience. Pour moi, c'est de l'expérience et c'est de l'apprentissage. Je ne dis pas que tout le monde a besoin de passer par ces expériences-là en fait, pour comprendre des trucs dans sa vie. Moi, personnellement, ça m'a fait comprendre des trucs dans ma vie. Clairement, j'ai fait des parallèles en fait, avec la pâte à pain et puis des trucs de mon quotidien. En fait, des fois, tu as des Enfin, moi, j'ai une approche... enfin, j'ai une vision presque thérapeutique du truc, en fait, du process de la transformation qu'on peut faire basculer sur nous-mêmes, en fait. Des étapes de transformation, de bascule, le façonnage, le vivant. Comment toutes ces choses-là, en fait, ça me fait réfléchir sur des aspects de ma vie. En même temps, c'est des choses... des choses concrètes qui se passent. Je mène une patte. Je ne suis pas en train de la transformer, mais je mène une transformation. J'accompagne une transformation. Encore une fois, un petit peu cet aspect nourricier, cet aspect maternel, la matrice. Mm-hmm. En fait, il y a plein de choses qui se passent, en fait. C'est pour ça que je dis, c'est plus que faire du pain, en fait. Et après, c'est à chacun, en fait, d'apprécier la chose de son point de vue, avec sa sensibilité, sa vision, etc. Il y en a, ils vont juste faire du pain et sans réfléchir, et c'est très bien. Maintenant, je ne me rappelle plus.
Non, mais il n'y a pas de base. Je voulais convaincre, comment qu'est-ce que ça m'apporte, ça m'apporterait quoi de faire mon pain, moi
C'est pour ça que je vais te dire, moi, je ne vais pas chercher à convaincre, parce que ça, c'est ce que je te dis, c'est très subjectif, en fait. C'est lié à moi, et à ma vision, et à mon expérience de vie. Maintenant, t'aimes le bon pain, t'as envie d'en faire chez toi, t'as peut-être des difficultés à digérer le pain du commerce, etc. Et ben, t'as toutes les raisons de te lancer. Et je pense qu'avec un peu de... On ne demande pas une formation de 3 semaines, non. Comprendre le levain, ça peut se comprendre. Avec les bons outils, les bonnes infos, en 2-3 jours, c'est bon, on est OK. Donc en fait, c'est entretenir mon levain, c'est 5 minutes au quotidien.
Et encore, c'est mieux.
C'est tu mets ta farine, ton eau, tu mélanges, et ça y est, c'est bon, t'as fait ton rafraîchi. Et encore une fois, il y a d'autres façons de faire. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui mettent leur levain au frigo parce qu'ils savent qu'ils ne vont pas en faire avant des semaines, et tout va bien. En fait, le but, c'est l'approche que je vais avoir, c'est une approche décomplexante et non culpabilisante. Je ne veux pas, en fait, rentrer dans le fait de se sentir prisonnier, en fait, d'une nouvelle... Non, c'est pas parce qu'on fait du fait maison qu'on devient prisonnier et rempli de nouvelles injonctions. C'est pas le but. Le but, c'est de s'amuser, c'est de faire quelque chose qui nous plaît, c'est de s'émerveiller au quotidien, en fait. C'est pas que ça devienne une nouvelle...
charge mentale.
Une nouvelle charge mentale, exactement, merci.
Surtout que toi, t'as des enfants, t'as une famille... T'as un travail, mais je vois, quand je regarde ton compte Instagram, que tu fais certes du pain au levain, mais je vois que tu fais des bocaux l'été pour l'hiver. Non, mais sans grand
quel âge. mais quel âge as-tu, mamie?
Et franchement, j'adore, parce que nous, c'est vrai qu'on a expérimenté, c'était les confitures maison l'année dernière, et on s'est dit, on refait la même chose cette année. On veut faire aussi cette année, acheter en gros, tu sais, les tomates et tout. Pour faire notre sauce tomate pour cet hiver. Donc, on est déjà prête, on est déjà décidé cet été. Voici notre mission. Mais encore une fois, c'est peut-être dû, nous, au fait qu'aujourd'hui, on voit bien qu'on est en 2023 quand on fait cet épisode, parce que vous nous écouterez en 2030. Je sais pas. Le monde va mal, je ne sais pas. Toc, toc, est-ce que le monde va mal en 2030?
Vous le saviez, vous?
Est-ce que le monde existe en 2030?
Peut-être que vous n'entendez même pas. Ou d'une autre planète, je ne sais pas. Mais... aujourd'hui, alors déjà, nous, on partage l'alimentation saine, la cuisine maison, le fait maison depuis des années, mais depuis le confinement, je pense que tout le monde a pris un peu une claque aussi avec le Covid, de se dire waouh, il va falloir qu'on devienne un peu responsable chacun de sa santé, de sa survie limite.
C'est ça.
Et autant, donc, nous, le fait qu'on parle en ce moment de levain, de fait maison, de faire ses bocaux pour l'hiver, ça. Limite, les gens, ça les choque pas, parce qu'on en est tous peut-être un peu arrivés à ce niveau de vite, il faut faire ça pour avant qu'il y ait la fin du monde. Mais toi, quand tu as commencé à faire des confitures, des bocaux pour l'hiver à Paris,
quand t'as 30 piges,
ça vient d'où?
Je sais pas. Je pense que ça vient du fait que j'ai toujours vu les femmes de ma famille, en fait, faire ça. Il y a ça aussi.
Donc la transmission.
Ouais, la transmission. Ma grand-mère qui faisait de la confiture de groseille, qui faisait... ouais, je sais pas, je pense que... Et pas que des femmes de ma famille, hein, des femmes de mon entourage. la cuisine a une grande part en fait dans notre famille, une très très grande part. Et alors tu m'as fait rire parce que les bocaux les bocaux pour l'hiver, j'aimerais bien que ce soit vrai là ce que tu me dis là, franchement, de faire plein de bocaux pour l'hiver. J'en fais beaucoup moins avant, j'en fais beaucoup moins maintenant. Parce que j'ai plus l'énergie, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, ça prend. Et puis voilà, après je vais mettre mon énergie dans autre chose peut-être maintenant. Alors sauf les tomates, parce que j'adore les tomates que je mange en Italie. Et elles ont un goût que je retrouve pas, que je retrouve nulle part. Et ce que je fais, c'est que je fais ma petite sauce tomate. Et là, par contre, je prépare des bocaux.
Parce que quoi, tu vas en Italie les récupérer ?
Non, en fait, l'été en général, je vais en Italie parce qu'on a une maison de famille là-bas que mon arrière-grand-père a construit pour ses enfants, etc. Donc on se retrouve là-bas et chaque année, les tomates, quand je reviens, ça me déprime parce que je ne trouve plus en fait, le goût que j'avais là-bas. Donc je fais un peu mes petites réserves pour l'année. Bon, évidemment, ça part dans... Tout part au mois de septembre, mais je me dis, voilà, dans ma tête, c'est, je fais mes petites réserves. Et c'est encore dans l'idée de réserve, tu vois, tu parlais de réserve, il y a l'idée d'autonomie aussi qui ressurgit et qui a beaucoup ressurgi aussi avec le confinement, avec tout ça. Ça a exacerbé plein de choses, le confinement, le fait qu'on soit un petit peu contraint comme ça et puis, comment dire, tributaire en fait, tributaire du reste en fait, on se sent démuni, on ne sait pas ce qui va se passer, est-ce que c'est la fin du monde, est-ce que si, ça. Et je pense que ça a fait ressortir tout un tas de choses très profondes liées à la survie, à la survivance, à tout ça. Et le fait de faire les choses soi-même, dont le pain, et je pense que c'est pour ça que le pain a été si convoité à ce moment-là, le fait de faire son pain, et ça a été vraiment... tout le monde s'est senti dans l'obligation en fait de se dire voilà, ah non mais il faut que je fasse mon pain au levain à ce moment-là, parce que je pense qu'on était dans une période tellement instable qu'on avait besoin de se dire voilà, au moins si c'est la fin du monde, je sais faire ça. J'ai du pain et je vais pouvoir survivre. Quoi. Donc l'idée c'est un peu ça, mais en même temps ces idées de réserve, d'autonomie, de survivance. Je sais que c'est des choses qui m'animent depuis très petite, depuis petite, etc. Et jusqu'à mes jeux, hein, mes jeux d'enfance, c'était ça. C'était faire dans la nature, c'était faire des réserves, préparer un abri. C'était très... je prévois pour l'après, en fait. Je prévois pour l'après et je pense que ça s'est après... il y a des choses qui sont restées, je pense, autour de la cuisine, autour de tout ça.
Et tu transmets ça à tes enfants, c'est-à-dire que les enfants, ils te voient faire du pain au levain régulièrement, ils te voient faire ta lactofermentation, et ils en pensent quoi quand ils te voient faire ça?
C'est mon plus mauvais public, mes enfants. le pain, ouais, c'est bon, ils acceptent. Le pain, tout le monde en mange à la maison, c'est OK. Par contre, les bocaux, là, c'est plus compliqué. Les bocaux, clairement, non, les bocaux, je les fais pour moi, ça prend du place, ça prend de la place dans mon frigo, dans mes étagères, dans tout ça. Donc, ils me regardent faire de loin, dès que j'en ouvre un, c'est « Ah, ça sent pas bon, ça pue ton truc et tout !» Et non, ils ont pas... ça viendra peut-être plus tard. Je me dis que...
Ils le voient.
Ils me voient faire. Et je pense que c'est des petites graines qui sont plantées pour que ça germe un peu plus tard.
Et les légumes, tu parlais des légumes et des fruits lactofermentés, tu en consommes au quotidien ?
Ouais.
Tous les jours ou non ?
Non, il y a des fois où je le fais pas parce que j'y pense pas. Mais alors, ce qu'il faut savoir quand on commence à consommer des légumes lactofermentés, c'est que le microbiote s'habitue et le goût s'habitue. Et qu'en fait, ce qui se passe à l'intérieur... il y a comme une envie de revient. C'est-à-dire que quand tu commences à en manger, il y a des bactéries particulières en fait, qui commencent à peupler ton microbiote et qui demandent cette nourriture-là. Donc en fait, ce que tu vas avoir envie de manger, ça vient de l'intérieur.
C'est étonnant.
Oui, ouais, ça vient de l'intérieur. C'est-à-dire que des fois, tu vas te dire « ouais, j'ai envie de manger ça », en fait, c'est parce que ton intestin est peuplé de telle et telle bactérie. Et pour la lacto, c'est pareil. C'est-à-dire que tout ce qui va arriver comme nouvelle population, entre guillemets, de micro-organismes, c'est presque limite eux, après, qui vont te dicter quoi manger à tel moment. Donc, en fait, plus tu vas manger... Quand tu commences à manger lacto, tu vas de plus en plus avoir envie d'en manger.
D'accord.
Tu vois ? C'est comme quelqu'un qui n'est pas habitué à manger du fromage. Il va commencer à en manger un petit bout, comme ça, un tout petit bout. Et chaque jour, en manger un petit peu et tout ça. Et après, en fait, il va avoir... il va s'éduquer, en fait. C'est comme une éducation au goût, mais qui vient de l'intérieur. Mmh. Voilà. Donc, moi, je sais qu'à un moment donné... Bon, ça s'est calmé un peu depuis, mais à un moment donné, je faisais que des repas avec que des trucs lacto-fermentés. Alors attention, hein, pas une grosse assiette trucs, non, non. Mais genre, je voyais que mon assiette était composée que de choses issues de la fermentation. Du pain au levain, du fromage, un petit peu de kimchi, de la kombucha, et c'était ça mon repas, en fait. Et en fait, et j'avais envie de manger que ça.
Et du coup, tu fais ton kimchi toi-même ?
Ouais.
T'as une recette, tu choisis une recette que tu fais de toi-même ou t'as une recette... Parce que comment tu t'es intéressée, c'est Internet, les blogs ?
Ouais, il y a un petit peu de tout, il y a beaucoup de vidéos sur... alors, à l'époque, il y avait quasiment pas de vidéos françaises, en français. Très peu de contenu en français. Les seuls contenus en français, bah, c'était Marie-Claire Frédéric. Alors, Marie-Claire Frédéric, c'est la grande papesse de la lactofermentation et de la fermentation en général. C'est une personne qui a beaucoup de connaissances, qui a écrit plein de livres et qui a énormément de choses à enseigner et qui a un très très grand savoir. Moi, ce qui m'a intéressée dans son contenu, c'est qu'elle faisait souvent des parallèles avec l'histoire, donc tous les aspects historiques et géographiques. Et en fait, on en apprend beaucoup en fait, sur l'histoire du monde au travers de la nourriture déjà et au travers de la fermentation en particulier. Et c'est cet aspect-là, en fait, presque anthropologue, qui m'a beaucoup intéressée et où j'ai voulu creuser un peu justement pour en savoir davantage, avoir encore plus d'anecdotes, encore plus de raisons, en fait, comment ça s'est apparu, pourquoi est-ce que telle population mange ça, à partir de quoi, etc. Qu'est-ce que ça transforme dans leur corps à eux. En fait, c'est beaucoup plus que de la simple nourriture. C'est de la nourriture, en fait, qui agit après sur des corps, sur des sociétés, sur tout un tas de choses, quoi. Quand on sait que, par exemple, pour le pain, ça a déclenché des révolutions. Enfin, le pain déclenche des révolutions. À partir du moment où un peuple n'a plus de pain, c'est la guerre. Donc en fait, tout cet aspect-là, en fait, lié entre la nourriture et la nourriture et le social, la nourriture et le corps, ça me passionne, ça me fascine.
Mais même si toi tu as fait cette passion-là, mais à l'époque il n'y avait pas de vidéo YouTube.
Ouais.
Donc tu te dis, je vais faire du kimchi,
si.
What ?
Si, 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 il y avait quand même des vidéos YouTube, mais plutôt anglo-américaines ou anglo-saxonnes, etc. Tu avais du contenu quand même, ou des bouquins, tu avais quand même un peu de contenu.
Ça te passionnait suffisamment pour réessayer, parce que je présume que les premiers ne devaient pas être des francs succès, pour te dire, je continue, je persiste, je persiste. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des gens qui persistent, parce qu'ils veulent faire une belle photo Instagram. à l'époque, il n'y avait pas Instagram. Donc toi, tu as persisté par pur plaisir.
Ouais.
Malgré les échecs.
Malgré les échecs. Après, les légumes en lacto, c'est quand même assez facile. Assez facile. Mmh. J'ai envie de te dire qu'on peut réussir du premier coup assez facilement, quoi.
Moi, j'ai réussi le premier coup facilement, c'était très facile.
Franchement, c'est pas compliqué, il y a vraiment pas de beaucoup de manipulations à faire, et puis c'est assez enfantin. L'idée de refaire, alors ce dont tu me parles, c'est-à-dire les échecs, le rapport à l'échec, le rapport à l'échec est peut être très violent quand on fait... quand on fait maison déjà.
D'ailleurs, c'est pour ça que les gens disent souvent, moi j'arrête parce qu'ils se sentent, je pense que c'est vulnérable et surtout
parce qu'en fait parfois des gens qui n'ont jamais fait maison ou qui font tellement peu maison qu'ils ont vu Isadora et Marisa faire une recette qui est tellement simple, c'est vrai que c'est des pâtes, des champignons, de la sauce tomate, ils disent il n'y a pas possibilité de la rater et le fait qu'ils la ratent ça leur donne un truc de mais même ça, je ne suis pas capable. Okay. Que finalement, nous tous, on passe... Bien sûr que
aujourd'hui, le degré d'échec, il est peut-être moindre parce que toi, tu fais du pain au levain depuis longtemps. Moi, je fais à manger depuis longtemps. Donc, il y a des choses que je maîtrise bien. Mais l'échec est toujours présent. Faire un pain, parce que la dernière fois, j'ai fait une pâte à tarte avec de la farine de petite épeautre, 100% petite épaule, je me suis foirée parce qu'elle était beaucoup. Elle a bu toute l'huile et tout le beurre, elle n'arrivait pas à se former. Bon, bah voilà, c'est pas grave. Tu vois ce que je veux dire, Mais est-ce que maintenant j'ai tellement l'habitude de savoir que l'échec fait partie du jeu, mais je peux comprendre que les gens sont déstabilisés et se disent, tu sais quoi, j'arrête totalement. Toi, tu n'as pas décidé d'arrêter. Tu as dit, je vais me remonter en selle, quoi.
Ouais, parce que pour moi, typiquement, l'échec fait partie du parcours. Et que c'est grâce à ça, en fait, que c'est en se ratant, en fait, qu'on comprend le plus de choses. Et finalement, en fait, c'est la base de la vie. C'est en tombant, en fait, c'est en trébuchant que tu comprends et que tu as tes. Que tu fais tes expériences et que là, tu ne referas plus ce que tu as fait. Et en fait, c'est comme ça en fait, dans tout. C'est comme ça dans tout. Quand tu veux apprendre quelque chose, tu auras forcément une part. Tu auras 80% d'échecs sur 20% de réussite. Et donc après, moi, je l'ai accepté parce que j'avais la vision au moyen terme, voire au long terme. Après, ce n'est pas tout le monde en fait, qui va avoir cette vision. Et il y en a qui veulent juste faire du pain au levain en one shot, tout ça pour le fun ou le truc comme ça. Ou alors, mais c'est vrai que la question du rapport à l'échec, elle est en cuisine en tout cas, elle est très variée quoi. Elle est très variée et chacun, j'ai envie de te dire, chacun va avoir, va mettre son curseur en fait à différents niveaux. La question est Mais c'est vrai que la question de l'échec, je me la suis souvent posée en me disant, mais est-ce que c'est réellement un échec, là, ce que tu as fait ? C'est-à-dire que ce n'est pas ce que tu attendais comme résultat, mais est-ce que c'est un échec ? Au sens profond, au sens, t'es une ratée, quoi. Non, c'est du pain, il faut se calmer. C'est du pain, tu ne l'as pas réussi aujourd'hui, d'accord, maintenant, qu'est-ce que ça t'apprend ? Ah bah tiens, là, la température était un petit peu trop chaude, là, ta farine, ce n'était pas la bonne. Ok, bah, je ferai pas la même chose la prochaine fois et puis la prochaine fois après ça réussit et t'es trop content parce que tu te dis voilà, je me suis servi de cette expérience là pour ne pas faire les mêmes erreurs et encore une fois ça refait basculer dans la vie du quotidien, tu te dis bah voilà, ça va me servir enfin moi je fais beaucoup de parallèles comme ça avec la vie en général. Et je me dis mais et déjà faut dédramatiser hein, aussi hein, faut dédramatiser, c'est pas parce que t'as pas réussi à faire un pain que t'es une ratée.
T'as raté ton pain.
Que t'as raté ta vie.
T'as raté ton pain.
Et c'est pas grave. Tout va bien. Voilà, après, je pense que ça... Le rapport à l'échec, il est compliqué. Il est compliqué, il est lié, en fait, aux histoires de chacun, aux blessures de chacun.
Mais foncez c'est... quand même, quoi. Foncez quand même, testez. Et dites-vous bien que c'est pas grave. Moi, j'avoue, les premières fois où j'ai fait mon pain, t'as toujours l'impression, en plus, c'est horrible ça, mais pour plein de choses dans la vie, hein, t'as toujours l'impression que les autres disent que c'est généralement, moi, dans oui. Tout ce que j'ai lu et que tout ce que j'ai regardé comme vidéo, ils disent tous la même chose. Les premiers pains, ils seront pas ouf, ils seront pas spécialement aussi jolis que ce que vous pensiez, etc. Mais c'est pas grave, vous en ferez des croutons ou je ne sais quoi. Mais t'as toujours cet espoir que toi...
Ça va pas être pareil.
Que toi, tu vas réussir la première fois. Et quand la première fois, tu sors ton pain qui est une galette du four, t'es un petit peu déharçonné. Mais au bout d'un an, je m'en suis sortie. On s'en sort. Toi, quand tu fais à manger au quotidien, le pain fait partie de votre alimentation, le pain au levain. Est-ce que tu cuisines tout fait maison chez toi ou c'est par exemple, voilà, moi c'est le pain uniquement et la lactofermentation ou est-ce que c'est vraiment ton quotidien de faire la cuisine maison tous les jours?
Non, pas du tout.
Non.
Pas du tout. C'est pas mon quotidien. Non. Parce que des fois, là, ça dépend des moments. Il y a des moments où, je vais mettre bon cœur, en fait, à faire tout ça. Et où ça va m'apporter. Et d'autres où ça va être l'inverse. Et ça va me charger plus qu'autre chose. Donc, dans ces cas-là, ben non, je suis désolée, mais non. Je vais ouvrir un paquet de pâtes. Je vais faire... J'achète une salade, voilà, je fais comme tout le monde, quoi. Hein. Je ne suis pas un extraterrestre qui va faire, qui a un potager en permaculture et tout ça. Non, en fait, je suis comme tout le monde. Je suis comme tout le monde et puis j'ai des moments sans. Des moments sans, des moments où je ne peux pas avoir le pain ou le vin en peinture, des moments où mon levain, je le mets au frigo parce que j'en ai marre de voir sa tronche. Non, clairement, j'ai des moments sans. Et tout va bien. Mmh. Tout va bien. Et comme je le disais, il ne faut pas que ça devienne... faut pas que ça devienne une nouvelle injonction, quoi. Mmh. Faire maison, c'est bien. Lacto, c'est bien. Faire son pain au levain, c'est bien. Après, c'est pas une obligation. T'es pas obligé de faire ça pour être une femme ou un homme bien. Maintenant, ça peut t'apporter du plus au quotidien, corporellement, dans la tête, parce qu'il faut savoir que ce qui se passe dans le microbiote influe ce qui se passe dans la tête. Mmh. Tout est lié, en fait. Je pense qu'il faut avoir une vision globale. Faut pas juste le pain ou le vin c'est long donc je vais pas en faire ou je vais acheter ci ou ça. Faut avoir une vision globale, je pense, au niveau de l'hygiène de vie, au niveau de ce qu'on met dans l'assiette. Qu'est-ce qu'on veut au final? Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut bien manger? On peut manger du bon pain en l'achetant, il y a aucun problème. Il y a plein de boulangers qui font du bon pain. Voilà. Moi, ce que je pousserais peut-être plus, c'est pour l'expérience. L'expérience de tester. Tester ça. On en parle de plus en plus. Le pain au levain, qu'est-ce que c'est? Ben, j'aimerais bien tester. J'aimerais bien mettre la main à la pâte et voir ce qui se passe. Voilà.
Et toi, en créant ton compte Instagram, c'est quand même très moderne, hein, clairement. Et en créant une page Instagram sur le levain, est-ce que ta volonté, c'était de dépoussiérer ces savoirs, ce savoir-faire et de, comment dire, que une nouvelle génération, notre génération plus jeune qui utilise Instagram, hein, c'est pas ma grand-mère qui utilise Instagram, tu voulais qu'une nouvelle génération prenne aussi le relais, découvre ce que c'est que le pain au levain. Pourquoi t'as créé un compte Instagram sur le levain? Pourquoi tu t'es pas dit, moi je vais continuer à faire mon levain chez moi toute seule, comme Isadora le fait par exemple, et c'est tout?
Alors ça, c'est une bonne question. Le point de départ. Je pense que Instagram, déjà, c'est un média qui me plaît. À la base, c'est un média qui me plaît. Je suis graphiste de métier. Donc, du coup, tout l'aspect visuel, toute la communication visuelle me parle beaucoup. Et clairement, le réseau Instagram, pour moi, c'est le réseau de l'image. Pas au sens négatif, au sens positif. J'adore regarder, enfin, je passe énormément de temps sur Instagram à regarder des comptes qui m'inspirent, où je vais voir, où je vais voyager par procuration, où je vais cuisiner par procuration, où je vais découvrir des choses, en fait. Et je trouve ce réseau vraiment fantastique pour ça. Il y a vraiment des perles à découvrir sur ce réseau-là. Et l'idée de partager, elle n'est pas nouvelle. Moi, j'ai ouvert un blog en 2007, un blog de recettes, juste avant de partir en Égypte. Et en fait, le but de ce blog, c'était de relier, de faire un lien avec ma famille pendant que j'étais là-bas. Le but, c'était de le remplir un peu comme on remplit un journal de bord. Et où je pouvais partager dessus, en fait, mes petites rencontres du jour, mes découvertes culinaires, etc. Aussi mes petites recettes. C'était vraiment un petit port d'attache que j'avais là-bas, jusqu'à chez moi. Et le blogging, à l'époque, c'était ce qui fonctionnait. Après, le blogging, bah, ça s'est, au fur et à mesure, ça s'est émoussé un petit peu. On a privilégié tout ce qui était réseaux sociaux. Et la plateforme Instagram m'a beaucoup plu dans sa spontanéité, l'occasion de partage, la communauté aussi que ça pouvait générer. Et l'idée de partager en fait, ce que j'étais en train de découvrir, je pense que ça a été ça peut-être le point de départ. C'est-à-dire que j'avais envie de partager ce que j'étais en train de faire. Hey, les gars, je suis en train de découvrir un truc, c'est top. Là, je suis en train de faire du pain et j'ai réussi à le faire. En fait, j'ai envie de vous montrer ça, de vous montrer comment faire pour que vous aussi, vous puissiez le faire chez vous, qu'on puisse en échanger, qu'on puisse en discuter. Et voilà, c'était du kiff, en fait.
C'est un partage spontané, en fait.
Partage spontané, c'est ça.
Et comment tu penses que les gens sont arrivés sur, parce que t'as quand même 25 000 abonnés sur Instagram, c'est pas rien aujourd'hui sur 25 000 personnes, si on les met dans une pièce, tu cries. tu fuis plutôt même. Tu penses qu'ils sont arrivés par quoi? Est-ce que même t'as une idée de qui te suit? Est-ce que c'est des femmes? Est-ce qu'elles sont jeunes? Enfin, jeunes. Tout le monde s'en garder. Qu'est-ce que jeune? Qu'est-ce jeune? Suis-je jeune aujourd'hui? Suis-je Jasmine à 35 ans? Et c'est plutôt des femmes actives. Est-ce que tu as une idée de ta démographie?
J'ai une idée par rapport aux statistiques.
Oui.
Ça, j'ai une idée. Donc, bon, on a une fourchette principale entre 25 et 45.
Donc, c'est quand même une jeune génération qui s'intéresse à un savoir qui date et que nous, même notre mère, n'a jamais parlé de levain. Ouais. Enfin, je veux dire, si nous, on a été élevés au pain poilane. Mais le pain poilane, nous, c'était pas du levain. On ne disait pas le mot levain à la maison. Franchement, j'ai l'impression que le levain.
Mais moi, pour moi.
Moi, j'ai entendu ça limite au confinement.
Bah, moi, non, moi, j'avoue que pour moi, les pains au levain qu'on voit aujourd'hui. Moi, j'avais des études d'histoire. Et moi, je suis une période très médiévale. Donc, quand je vois les pains au levain, pendant le confinement, quand tout le monde en a parlé, etc., tout ce que je voyais, c'était l'image du pain sur les marchés au Moyen-Âge. Parce que c'est plus des pains qu'on voit aujourd'hui. Même à la boulangerie, on ne voit pas ce type de pain. Je suis désolée. Amandes, maintenant, oui, les boulangeries artisanales qui font ça. Mais la boulangerie classique, c'est des baguettes. Alors que cette miche, on en parlait au Moyen-Âge. Donc, oui, c'est une jeune génération qui se remet à faire un...
Et pourquoi tu penses ?
Qui se met, plutôt même.
Pour quelles raisons les gens te suivent ? Pourquoi ils voudraient faire du levain, les gens qui te suivent ?
Difficile de répondre à ça.
Ou est-ce que tu as des retours? J'avais posé cette question à Marion, c'est une youtubeuse plante. Je lui avais dit, quels sont les retours de toi, les gens, quand ils te suivent? Pourquoi ils disent qu'ils aiment les plantes? Pourquoi ils ont envie de prendre soin des plantes? Qu'est-ce que ça leur procure? Est-ce que tu as des retours, toi, de gens qui te disent, grâce à toi, j'ai découvert le vin, qu'est-ce que ça m'a apporté?
La réponse la plus commune que j'ai, c'est la satisfaction de faire soi-même. Et de pouvoir en nourrir sa famille. Ça, c'est la réponse qui revient le plus. C'est ça. Je pense que c'est très important, en fait. C'est une notion importante, je pense, au sein de sa famille ou de soi-même. Déjà, rien que se nourrir soi-même, c'est un cadeau qu'on se fait. Je pense que ça, cette dimension-là, en fait, d'apporter quelque chose... Et du pain en plus, du pain. C'est très symbolique le pain. C'est le centre de table, c'est la nourriture qui est universelle. On le retrouve partout dans tout le monde, sous des formes différentes, mais le pain, c'est une nourriture universelle. Il y a un symbolisme fou dans le pain, la Renaissance, le symbole de vie, le symbole de mort aussi. Il y a des notions presque mystiques en fait autour de ça, et je pense que de
se dire démystifier que, aussi soi-même,
c'est ça, c'est ça, d'arriver en fait à se dire que de démystifier tout ça et hop, se dire hop, ça y est, c'est bon, j'ai réussi, j'arrive à le faire, je suis capable de le faire et je le propose sur la table aujourd'hui, et ben je trouve que c'est très valorisant.
T'as l'impression d'avoir un peu, moi je trouve, un super pouvoir, parce que t'as l'impression que c'est les élus qui savent faire ce genre de pain. J'avoue que moi, les premières fois que j'ai voulu me lancer, je me suis dit, mais jamais j'arriverai à faire un pain aussi incroyable que... Et quand tu arrives pour la première fois, mais t'as le sourire comme ça, de le dire à tout le monde, et tu le dis à tout le monde.
Comme quand t'as accouché, en fait, ça, c'est ça. Mon bébé, c'est le plus beau, regardez, moi j'ai fait, en fait, il y a plein de gens qui l'ont fait avant toi, chérie, mais toi, c'est ton pain, quoi.
C'est mon pain.
Quand ta gestation, elle a duré 8 heures et t'as accouché d'un beau pain.
Mais c'est ça. En plus, voilà, c'est long, et puis moi, je sais que je lui parle, tu sais, moi je parle beaucoup, moi, je vais lui dire, Alain, parce que moi, il s'appelle Alain, mon levain, Alain le levain. Toi, il s'appelle le vilain. Oui, il s'appelle Alain. Je lui parle en fait, sans même m'en rendre compte. Mais c'est vraiment, pour moi, c'est un travail qu'on fait à deux. Et quand on l'a réussi, je suis fière de moi.
Travail d'équipe.
Comme je suis fière de lui, je me dis, putain, je l'ai bien nourri, on a fait une bonne team. Donc je comprends vraiment le côté satisfaction, parce que je pense que c'est ce que je mettrais limite en premier. Et en deuxième, c'est ce côté méditatif. Pour moi, c'est très thérapeutique de faire du pain. Et comme tu ne... Mais après, pour le coup, c'est...
très personnel.
Très personnel. Et en plus de ça, ça dépend. Il y a des gens qui, pour eux, ça va être l'aquarelle. Ça va être de faire, je sais pas moi, des puzzles.
Toi, en fait, c'est une vraie activité manuelle.
Moi, c'est une activité. Moi, c'est
mon activité. Mange.
Voilà. C'est une activité manuelle et créative. Moi, j'ai toujours que je ne suis pas créative. Parce que comme pour moi, créativité, c'est automatiquement savoir dessiner, savoir peindre. Donc, moi, j'ai toujours dit, moi, je ne suis pas quelqu'un de créatif. Mais dans la cuisine, c'est le seul moment où je me sens créative. Ouais. Donc oui, je comprends que...
Mais après, c'est comme de la pâte à modeler géante, quoi.
Oui, c'est vrai. Et pourtant, j'aime pas la pâte à modeler spécialement.
Ouais. Je suis
pas...
Non, c'est comme un, ouais. C'est comme un slime, hein, ouais. Une pâte à modeler géante que tu vas modeler.
Donc, en fait, faire le levain, c'est un peu aussi s'offrir un moment à soi, comme d'autres personnes qui vont faire de la broderie, d'autres ouais. qui vont faire, ça se, peut se relier à une activité manuelle, un temps pour soi, ouais. Mais qui se mange. Et donc, nous, comme on est fans de nourriture, c'est le meilleur combo, c'est le combo idéal. Mais ça peut, c'est vrai que c'est quelque chose qui est peut-être pas, on ne voit pas forcément comme ça, ouais. mais les gens qui le font, vous le voyez comme ça. C'est que nous, en extérieur, comme on ne l'en fait pas, je me dis, pourquoi les pauvres filles, elles prennent un temps fou à faire du pain qui va être dégommé en un rien de temps, surtout quand on a une Marisa à côté de soi.
Surtout ça, parce que moi, ça va me durer une semaine. Hein.
Ouais, ouais. Mais c'est vrai que quand vous le vivez vraiment comme quelque chose de beaucoup plus profond que juste ouais. j'ai fait du pain, ou comme moi, ce soir, je fais une omelette pour ma fille, vite ouais. fait. Non, ouais. C'est pas non, un truc du quotidien.
C'est quelque chose que je me dis, je fais quelque chose pour moi. Oui. À ce moment-là, je me dis, c'est un moment que j'ai pour moi et que je fais pour moi.
Et d'ailleurs, voilà. À contrario, par exemple, de l'omelette, comme tu dis, moi, l'omelette, je vais la faire qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, que je sois fatiguée ou pas, parce qu'il faut que je nourrisse ma famille. Mais j'ai pas, parfois, j'ai pas envie, mais je la fais limite à contre-cœur. Le pain au levain, je ne le ferai qu'un moment où je suis contente, où j'ai envie, où les jours où j'ai pas envie, je vais à la boulangerie, j'achète du pain au levain à la boulangerie. Donc oui, c'est une activité manuelle, quelque part. Mais au même titre que, par exemple, la couture, etc., c'est vrai que la couture, je veux dire, il y a plein de gens qui ont perdu ça. La première, moi, je ne sais même pas, limite, coudre. Mais tous ces savoir-faire qui sont un peu... qui sont anciens, mm-hmm. qui ont été oubliés, ça va vraiment avec notre monde actuel où, finalement, on n'a plus de satisfaction. Au travail, bah, en fait, on fait le travail qu'on nous demande de faire. C'est difficile d'avoir d'estime de soi, je trouve, dans une société aujourd'hui qui est uniquement basée sur de la productivité
Et de la comparaison.
Et de la comparaison. Alors que quand on reprend ces savoir-faire anciens, que ce soit vraiment... Moi, je pense à couture parce que j'ai demandé là, à mon amie Claudie, est-ce qu'elle peut m'initier à tout ce qui est la machine, là, comment on appelle ça, là ?
Machine à poudre.
Déjà, je pars de très loin. Tu vois bien que j'ai fait le levain l'année dernière, ça fait un an. Maintenant, je fais un an de couture. C'est un côté où tu es satisfait de toi-même dans un monde où c'est difficile d'être satisfait de soi-même et d'avoir aussi... une satisfaction personnelle, puisque de toute façon, tout ce que tu vas faire est regardé aussi par ton employeur. Il y a beaucoup de jugements dans ce monde actuel que eux, je crois qu'ils n'avaient pas à l'époque. On faisait pour le bien de sa famille, pour le bien personnel. Donc, j'avoue que faire du pain au levain, j'ai l'impression que c'est le seul endroit aujourd'hui où je peux m'exprimer et être satisfaite de moi-même, sans avoir spécialement un retour de l'autre. Et bon, ce sera pareil avec la couture. Et bon, ce sera pareil si je fais...
Comme quand on a fait la confiture cet été. Oh, cet été, Zora, elle a fait la confiture pour la première fois. Pareil,
quel bonheur.
La confiture, t'as l'impression que c'est un truc hyper compliqué à faire. Moi, je disais, mais faire de la confiture, tu sais, tu l'achètes la confiture, en fait. Et puis, tu l'achètes pas cher, hein. C'est en supermarché, une confiture, t'en as pour 1 € et quelques centimes, quoi. Pourquoi faire de la confiture? Mais cette valorisation t'as quand t'as fait ta confiture, quand tu l'offres, quand tu vas chez quelqu'un, t'as invité l'été chez quelqu'un, tu ramènes la confiture que t'as faite maison. Les gens te regardaient là, waouh. C'est vrai que c'est un truc très... déjà de le faire, c'est vrai que la cuisine comme ça qui est... C'est pas la cuisine du quotidien. La cuisine du quotidien, on le fait tous, et on est tous barbés. Même si vous croyez que nous, on adore faire la cuisine, oui, mais au quotidien, il y a des moments où t'es là, waouh, flemme de faire à manger. Que là, c'est vraiment des cuisines de moments précieux, à certains moments de ton... Ouais. D'une journée, d'une période. Donc là, en été, bah tiens, si on fait de la confiture de Mirabelle, c'est vrai que ça a ce côté très thérapeutique.
Qui est personnel, mais qui peut aussi rassembler.
Oui.
La confiture, le pain. Enfin, c'est un côté de partage.
Ah bah, la cuisine, de toute façon, en général, ouais. c'est des moments de partage. Hein. C'est des moments de partage. Et tu parlais de d'aspect thérapeutique, on en a parlé souvent. Il y a aussi la reconnexion au temps.
Oui.
Parce qu'avant, les gens prenaient le temps de faire, et maintenant, on ne prend plus le temps. Donc, ça nous paraît long, mais en fait, non, c'est nous qui prenons plus le temps de faire les choses.
C'est vrai, la reconnexion au temps, elle est assez incroyable, hein, de se rendre compte que tout ce temps-là qu'on fait pour faire du pain.
C'est ça. Mais alors qu'en fait, bon, c'est juste prendre du temps. Et je veux dire quelque chose, attention. dans une époque où on est hyper connecté, on n'a jamais été autant déconnecté du temps, en fait. C'est-à-dire qu'on perd complètement pied, en fait, sur le temps qui passe. Le temps, ce n'est pas quelque chose qu'on peut saisir. Ce n'est pas quelque chose de palpable, etc. Maintenant, c'est une donnée. On passe énormément de temps, en fait, finalement, sur nos réseaux, devant la télé, ou connecté à d'autres choses. Et finalement, on se dit, ah bah ça va être long de faire du pain. Mais non, en fait, c'est juste, hop, tu vas déconnecter un petit peu, tu vas te reconnecter à la réalité, au temps présent, à toi, etc. Et tu vas t'offrir, en fait, ce moment de cette fenêtre, en fait. Cette fenêtre sur le présent, tout simplement.
Je suis d'accord. C'est vrai qu'on a eu une réflexion il n'y a pas longtemps d'une personne, parce que j'ai fait un live sur YouTube pour parler de mes problèmes de digestion. Et ça a été un live qui a duré 1h40, quelque chose comme ça. Et une personne m'a répondu, très sympa la vidéo, mais beaucoup trop longue. Et puis je lui réponds, ah oui, c'est vrai que si tu viens de découvrir notre compte, tu n'es pas encore au clair avec le fait que nous, on propose beaucoup de contenu long.
Ouais.
Podcast qui dure entre 1h et 1h50, 2h, enfin bref. Elle me fait, ah non, je vous suis depuis des années, mais je trouve que vos contenus sont beaucoup trop longs et qu'il faut s'adapter, il faut que vous vous adaptiez
oui, parce que maintenant,
à ce que voilà. Ce qui se fait. Dans, ouais, elle dit, nous, on n'a plus le temps aujourd'hui de regarder des gens qui parlent pendant 1h30. Alors, moi, déjà, je me dis, on n'a plus le temps aujourd'hui, mais là, tu me parles sur Instagram. Je ne pense pas que tu es venue sur Instagram juste pour me parler à moi. Tu as certainement scrollé, tu as regardé. Donc, et on oublie que parfois, on a passé une demi-heure, trois quarts d'heure sur Instagram. Le temps est passé hyper vite, tu t'en es même pas rendu compte.
Plusieurs contenus.
Avoir conduit, voilà, de t'en souvenir de pratiquement aucun. Ouais. Est-ce qu'il y en a un qui t'a plus impacté qu'un autre sur Instagram?
C'est la quantité plus que la qualité.
Voilà. Et c'est vrai que je me suis dit, waouh, du coup, je me prends une gifle par une personne qui me dit que nos contenus longs sont pas adaptés à la tendance actuelle qui est de faire du contenu court. Et moi, je suis là, non, mais attendez, ça veut dire que là, en effet, la connexion au temps a été totalement perdue. Et aujourd'hui, tout doit être très rapide. Donc, faire de la confiture, c'est sûr que seuls les gens qui ont envie de se reconnecter, qui ont été aussi beaucoup stressés, c'est vrai que nous, on s'est reconnectés aussi beaucoup à ça parce qu'on s'est rendu compte à quel point on a privilégié notre carrière, la productivité, et qu'on a laissé passer la vie. Et qu'en fait, aujourd'hui, tu avais besoin de quelque chose qui te réancre dans le moment présent.
Ouais, j'avais besoin de gérer mon anxiété, moi.
Tu avais besoin de gérer ton anxiété. Et c'est pas en allant scroller sur Instagram dès le matin en saut du lit que tu...
Ah, moi, c'est là que le... Mais je faisais pas la connexion à l'époque. Mmh. Je me suis pas dit, j'ai de l'anxiété, je vais faire du levain. Non, c'est maintenant avec le recul que je me rends compte. J'étais à l'époque très stressée et j'avais l'impression de pas avoir... À part mon travail, je ne faisais rien d'autre que mon travail. Et être mère. Mais bon, voilà, t'es mère, t'as ton travail, t'es une conjointe. Mais qui j'étais au milieu, je savais pas trop. Et j'ai entendu parler du levain, je vais aller peut-être baisser, mais ça aurait pu être ça, comme ça aurait pu être...
L'aquarelle.
L'aquarelle. Sauf que comme j'ai pas le côté, cette fibre, et que moi j'aime manger, j'ai
autant
dit...
Autant lier l'utile à l'agréable.
Exactement. Donc le levain m'a paru un truc que j'ai voulu tester, et après c'est directement été la confiture, qui est moins long, bien évidemment. Mais ça m'a énormément apaisée, ça a calmé mes angoisses, et du coup je trouve même que depuis que j'en fais... Ça, comme tu disais tout à l'heure, moi ça me fait un impact sur ma vie, mais moi j'ai l'impression que je me suis assagie, je me trouve plus douce et plus ouais, on va voir la vie un petit peu aujourd'hui que je fais
prendre du recul.
Ouais. Donc c'est drôle parce qu'à la base je faisais juste du pain, mais ça a changé une façon de voir la vie. Donc oui, je pense que se reconnecter comme ça au savoir faire qui sont anciens, qui sont oubliés, je pense que c'est hyper important. Moi, je vois, par exemple, notre grande sœur, elle a sa tante qui fait depuis toujours les confits. On est dans le sud-ouest, nous, hein, donc confits, foie gras, tout ça. Et aucun de ses enfants n'a voulu prendre la relève, en fait. Pas un métier, hein, uniquement...
Mode
de vie. Et donc, notre sœur, elle lui avait dit... Moi, je sais qu'un jour, tu vas être amenée à décéder. Elle se fait vieille en plus, etc. Mais tu vas partir avec ce savoir-faire que personne dans notre famille ne saura. Donc, plus personne ne pourra faire son propre foie gras à Noël, son propre confit, ses pâtés. Et elle fait, bah, du coup, moi, j'aimerais que tu m'apprennes. Donc, mais ça va être pareil. Hein. 4 jours d'immersion totale. Mais elle en est ressortie en ayant passé un bon moment. Ça, en effet, c'est un moment de partage qui est incroyable. Et un moment de satisfaction parce que maintenant elle dit, tiens, je sais faire du foie gras. Alors oui, c'est controversé, mais en revanche,
c'est une transmission.
Ouais. Mm-hmm. Et bref, moi, je sais même plus ce que je voulais dire, mais j'ai trouvé ça beau. Je sais plus ce que je voulais dire.
Oui, et toi Valérie, alors pour les personnes qui veulent, ça y est, ils ont dit, ok, là elles m'ont vendu du rêve, je veux ça aussi. Je veux ralentir, je veux apprendre l'anxiété, je veux faire du levain. On commence par quoi? Toi, t'as un compte Instagram, 2 livres, une box, Tu dis quoi aux gens qui veulent commencer à faire du levain? Ils commencent par quelle première étape?
Bah, ça dépend. Ça dépend à quel stade ils en sont, à quelles envies ils ont. La box que je propose, elle a déjà, je l'ai conçue un peu comme un kit de démarrage, c'est-à-dire avec tout le petit matos de démarrage. Il y a même un petit sachet de mon levain qui est déshydraté à l'intérieur. Donc ça, c'est dans l'optique où la personne elle a envie de se lancer assez rapidement, parce que le sachet il peut être réhydraté en 2 jours et c'est OK. Maintenant, celles qui veulent démarrer from scratch, c'est-à-dire vraiment du début, elles peuvent s'équiper avec le livre, le premier. Alors moi, ce que j'ai fait dans ce livre-là, c'est que j'ai sorti tout ce qu'il y avait dans ma tête et j'ai tout mis à l'intérieur. En fait, j'ai travaillé à ce que ce livre, il ressemble à ce que j'aurais aimé trouver moi au début. C'est-à-dire, quand j'ai commencé le levain, il n'y avait pas de livre pratique qui allait droit au but, avec une méthode rapide, etc. J'ai travaillé en fait vraiment à faire ce livre dans cette optique-là, c'est-à-dire avoir une feuille de route, en fait. Une feuille de route qui va guider, un guide qui va te prendre par la main du début jusqu'à la fin pour tout comprendre sur le levain. Tout comprendre sur le levain, en faire ton meilleur pote et qu'au quotidien, ce soit facile, avec des gestes faciles, des petites routines toutes faciles, déculpabiliser, démystifier, vulgariser le truc au maximum avec des petits schémas, des petites choses comme ça. Et voilà, moi c'est ce que je conseillerais au départ pour pas s'éparpiller à droite à gauche, parce que c'est vrai que quand on se lance au départ, on a une quantité d'informations énorme. Donc je prêche un peu pour ma paroisse hein, quand je dis ça. Après chacun fait comme il veut. Il y a pléthore de comptes sur Instagram à suivre avec d'excellents contenus. Voilà, tu me poses la question. Donc,
ah oui, bah, moi, c'est toi qu'on a invité, on n'a pas invité les autres sur Instagram.
Donc clairement, je réponds. Voilà, le premier livre, le premier opus, il est dans ce sens. Voilà, découvrir, prendre en main et utiliser.
Mmh. Là, je suis d'accord. C'est vrai que au moins, parce que moi, j'en ai énormément regardé des vidéos. Ah, j'ai passé du temps. Et en plus, comme chacun après a sa technique.
Ouais.
Bah, ce que j'ai appris la veille, il a fallu que je la change dans la technique suivante, encore. Ouais. Et après, chacun, en fait... Et aujourd'hui, moi, j'ai fait une vidéo, j'ai tourné hier une vidéo sur... sur 2 jours. Une vidéo sur le pain au levain. Et quelqu'un qui a déjà regardé 1 milliard de vidéos, il va se dire, ah, mais c'est une autre nouvelle technique. C'est obligé, parce que chacun, après, met son petit truc. Donc oui, au moins commencer par le livre, bien... Mmh. Bien carré pour suivre. Moi, je suivais pas à pas. Il était toujours à côté de moi, à pas, et je dérogeais pas.
En fait, ça permet de pas s'éparpiller et de pas se décourager aussi. Parce que des fois, à comparer, en fait, comme tu dis, il y en a un qui a une recette et l'autre va avoir une recette différente. Et ça, c'est des centaines, en fait.
Ouais.
Donc, en fait, tu peux déjà après douter parce que tu dis, mais qu'est-ce que. En fait, ça veut dire que je fais ça de mal. Ah, et ça veut dire qu'il faut faire ça. En fait, tu changes sans arrêt, tu mélanges les recettes.
Oui.
C'est-à-dire que tu veux faire toutes les recettes, tu fais un mix et puis après au final tu te retrouves avec rien. Donc en fait, au départ c'est ça. Au départ, faut essayer d'être entre guillemets discipliné, bête et discipliné par rapport à ça. Non, j'aime pas du tout cette expression-là, mais vous m'avez compris en fait, dans le sens, faut suivre, voilà, suivre une méthode, que ce soit la mienne ou une autre, peu importe, mais une méthode, comprendre comment ça fonctionne. Et après, une fois qu'on a compris, ça y est, après on peut faire son propre process. Mais au départ, ça vaut dans tous les domaines.
Oui, en cuisine aussi. En cuisine, c'est vrai qu'au début, tu suis une recette à la lettre d'un livre de recettes. Et au fur et à mesure, tu dis, oh, j'ai pas envie de mettre ces olives là. J'ai pas envie de mettre les olives. Moi, je vais mettre des capres, tu vois. Oui, mais au début, quand tu es au début, au stade zéro de la cuisine maison, tu t'amuses pas à mettre des capres dans un truc aux olives. Parce que je veux dire, attends, ça se trouve, c'est pas possible. Donc oui, il faut après, au fur et à mesure, chaque étape, on apprend, quoi.
Et pour finir, parce que Marisa, il faut qu'elle aille chercher sa fille quand même chez Nounou. Pour finir, la question préférée de Marisa.
C'est toi qui l'as posée aujourd'hui, Zadora ?
Bah non, je t'ai fait une petite amorce.
Mais je sais pas laquelle veux-tu choisir ? Non, ma question sur la recette.
Bah bien évidemment.
Alors, tu pouvais m'aider, tu me prends dépourvu. C'est quel est l'angle ? L'angle, et que c'est quoi ? C'est ce que la recette. Qu'elle nous propose une recette au pain au levain ? Au levain ?
Par exemple ? Ou quelle est la recette qu'elle a aimée dernièrement, testée
Oui, alors, outre le levain, parce qu'il n'y a pas que le levain dans la vie, Valérie, est-ce que tu as testé une recette dernièrement, ou que tu as testé, que tu as cuisiné toi-même, ou qu'on t'a fait découvrir une recette dernièrement, simple, que tu as envie de partager avec les gens qui nous écoutent aujourd'hui? C'est la question qu'on propose toujours à la fin. Ah oui, ça surprend toujours, Valérie. Ça surprend toujours, on les prend toujours au dépourvu.
Ouais, là, c'est bien dépourvu. Alors. Bah, écoute, je vais pas chercher très loin. On va parler de ce que je vous ai ramené aujourd'hui. Voilà, j'ai fait des petits beignets au levain. Donc zéro levure dedans. J'ai tenté le truc. J'ai voulu voir tester une petite recette, à la maison. J'ai fait ma pâte hier. J'ai vu qu'elle avait bien gonflé. En plus, il a fait super beau hier. Donc, je l'ai mis sur le balcon, elle a bien poussé. Et j'ai fait mon petit frishti, j'ai fait mes petites boules de beignets. Et puis, je me suis dit, je vais ramener ça chez Isadora et Marisa demain. Et il se trouve que c'est pas mal.
C'est trop bon. Et en plus, c'est drôle parce que on le savait même pas, on l'a appris hier. Isadora, quand tu lui as envoyé la photo pour dire voici ce que je vous ramène demain, Isadora a dit les beignets, ça nous rappelle, le Cameroun.
Oui.
Parce que nous, on a une de nos tantes qui nous prépare toujours ses beignets.
Tous les Camerounais connaissent ses beignets.
Les beignets, voilà, c'est les beignets. Et toi, t'as répondu, alors qu'on ne pouvait pas s'imaginer, t'as répondu oui, mais c'est parce que c'est Camerounais, c'est ma belle-mère en fait qui est.
Ouais.
What? Donc du coup on a mangé des beignets Big Up au Cameroun, voilà. au levain,
ça levain.
Là, au Cameroun. Mais ça peut arriver.
Peut-être qu'au Cameroun, c'est fort possible que même ils fassent une sorte de levain. C'est fort possible.
Ouais. Ça donne envie des savoir-faire oubliés français. Ok, c'est très bien. Des autres
cultures. Ouais. Ah, ça serait un truc de fou. Mais là aussi, t'as un. Ah là là, il y a un business
y a un business à prendre là-dedans.
Mais moi aussi, je voulais parler de ton pain que t'as fait à l'ail des ours, que j'ai hâte de tester aussi. Parce que l'ail des ours, en ce moment, il y en a absolument partout sur nos étals de marché. C'est une période qui est quand même assez courte dans l'année. Donc en général, les gens, quand il y a de l'ail des ours, ils foncent faire du pesto à l'ail des ours, etc. Et je disais à Valérie, moi, je sais pas, j'en vois tout le temps sur le marché, mais je sais tellement pas quoi en faire. Et tu nous avais dit, l'ail des ours, vous pouvez l'utiliser comme des épinards. Tu mets ça dans des quiches, tu mets ça dans des...
Dans des cakes salés, du pain, des muffins salés. En fait, c'est hyper bien pour tout ce qui est préparation de pique-nique, des trucs comme ça.
Oui,
en fait.
C'est vrai.
Les petites préparations salées que tu as préparées pour l'apéro ou les pique-niques. Moi, ce que j'ai fait là, justement, c'est une période courte, l'ail des ours. Je l'ai fait déshydrater. Je l'ai fait déshydrater pour qu'il soit complet, enfin que je puisse le conserver plus longtemps. Là, le but, c'était pas de le conserver plus longtemps, mais plutôt de l'intégrer dans une pâte à pain. Donc là, le pain que je vous ai ramené aujourd'hui, c'est un pain de petite épeautre, un pain moulé, donc sur une pâte qui est quand même hyper hydratée. Donc c'est pour ça que je l'ai fait en moulé, parce que je peux pas le façonner.
Moulé, c'est dans un moule à cake, quoi, comme si ça ressemble à un pain de mie.
Voilà, c'est comme un pain de mie. Donc en fait, je fais ma pâte habituelle petite épeautre. Dedans, j'ai mis l'ail des ours que j'avais ciselé et déshydraté. Donc je l'ai mis dans ma pâte. Et j'ai rajouté des pignons torréfiés. Voilà. Et puis voilà. Après, j'ai mis tout ça dans le moule à cake que j'ai beurré préalablement. C'était très simple. J'ai fait ma pâte rapidement en 5 minutes. J'ai mis dans le moule. J'ai laissé 4 heures lever à bonne température. Hier, il faisait super bon. Et au bout des 4 heures, après, j'ai cuit directement.
Et c'est quoi ta recette avec le petit épeautre ?
Le petit épeautre, alors en général, c'est 400 grammes de petit épeautre. Et pour l'eau, ça va varier parce que chaque variété de petit épeautre va boire plus ou moins. Mmh. Là, la variété que j'avais, c'était une T110. Le petit épeautre, on peut le trouver aussi en T70. Là, c'était une T110, donc semi-complète. Et j'ai presque mis 100% d'eau. C'est-à-dire, j'ai presque mis 400 grammes d'eau. Donc
le vin,
j'étais sur 130. J'avoue, j'ai fait la louche.
Et si j'ai pas de levain, je peux utiliser une levure boulangère pour faire ton pain ?
Je pense, ouais. Je pense. J'ai jamais essayé.
T'as jamais essayé ?
Mais je pense que oui. Ouais.
Parce que levain forever.
Levain forever.
Tu n'utilises jamais de levure boulangère ?
Si, bien sûr, j'en utilise de temps en temps. Quand le temps, en fait, le ratio temps n'est pas suffisant de mon côté et que je dois absolument faire du pain parce que il faut en faire, parce que je veux en faire aussi, j'utilise un petit peu de levure et je mets du levain dedans quand même pour le goût. Après, ça reste rare quand même.
D'accord. Ouais. Bon, les amis, moi, il faut que je vous laisse.
Oui, non, mais c'est
dans une minute, je suis censée être chez ma nounou. Sinon, on va me facturer, hein.
Ah bah oui,
tu veux dire sup ?
Bah oui, oui.
Parce que je parle levain.
Tu lui expliqueras quelle est la notion du temps.
Après avoir passé, tu sais, la journée entière avec 3 gamins, la pauvre, libérez moi.
Là, le temps, il paraît loin. Merci beaucoup,
Valérie. Merci
pour cet échange. On s'arrête là pour vous, mais nous, on continuera à papoter puisqu'on se revoit en plus demain. J'espère que ça vous a plu de faire un petit bond dans le temps et des savoir-faire anciens. Merci beaucoup Valérie pour
sa venue. C'est moi qui vous remercie.
Et à très vite pour le prochain épisode.
À plus.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, I'm Guy Raz, and on my show, Wisdom from the Top, I talk with CEOs and business leaders about the toughest challenges of their careers.
There's lots of ways to measure success.
Sometimes a company has to bet against itself.
We wanted to set ourselves apart by having a point of view.
Businesses really impact people's lives in pretty fundamental ways.
On Wisdom from the Top, some of the greatest business leaders of our time share their intimate stories of leadership, innovation, and transformation. Stories you won't hear anywhere else. Check out Wisdom from the Top only on Luminary. Now, back to your show.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.